Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, heureuse de vous savoir à l'écoute de Radio Vatican. À la une de cette édition de notre programme, le pape François est depuis samedi de retour au Vatican après 3 jours d'hospitalisation à la polyclinique Gemelli de Rome. Nous en parlons dans la semaine du pape. Nous parlerons également de la clôture de l'étape continentale du synode sur la synodalité qui s'est officiellement achevée le vendredi 31 mars. L'actualité sociopolitique africaine nous conduira au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, entre autres. Dans la deuxième partie de cette édition, nous serons tout d'abord avec le père jésuite Adrien Lentiampa, qui nous fera le commentaire des textes liturgiques du dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. Suivra notre rubrique « L'invité du jour » avec Mgr Roger Mbeji, l'archevêque de Cotonou au Bénin. Vous l'entendrez dans la suite de l'entretien portant sur le programme « Église verte ».
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niamier.
Ouvrons l'actualité de l'Église par la semaine du pape et c'est avec Christian Combet.
La semaine du pape s'est achevée sur une note joyeuse. Le Saint-Père est sorti samedi de la polyclinique Gemelli au nord de Rome après 3 jours d'hospitalisation. Juste après avoir quitté l'hôpital universitaire, le pape François s'est rendu à la basilique Sainte-Marie Majeure où il s'est arrêté devant l'icône de Marie, Salus Populi Romani, lui confiant dans la prière les enfants qu'il a rencontrés la veille dans le service d'oncologie pédiatrique et de neurochirurgie infantile de l'hôpital, tous les malades et ceux qui souffrent de la maladie et de la perte d'un être cher. Notons que l'évêque de Rome avait été admis mercredi 29 mars à l'hôpital Gemelli de Rome à la suite des difficultés respiratoires. Il lui avait été diagnostiqué une bronchite infectieuse. Le même samedi, François a adressé un message aux participants à la conférence sur la colonisation, décolonisation et néocolonialisme dans la perspective de la justice et du bien commun organisée par l'Académie pontificale des sciences sociales les 30 et 31 mars à la Casina Pio Quarto au Vatican. Le pape y condamne l'exploitation et la marginalisation des peuples pour des raisons économiques ou idéologiques et s'excuse pour les croyants qui ont contribué à la domination de l'Amérique et de l'Afrique à toutes les époques. François a réaffirmé sa ferme volonté d'agir conformément à la doctrine sociale de l'Église et de travailler à l'inversion des processus néocoloniaux qui affligent l'humanité. Au registre des nominations, le pape François a nommé samedi sœur Hélène Alford, présidente de l'Académie pontificale des sciences sociales. La religieuse britannique de 58 ans était jusqu'à présent doyenne de la faculté des sciences sociales de l'université pontificale Saint Thomas d'Aquin Angelicum à Rome. Elle succède à l'économiste italien Stefano Zamani. Toujours samedi, le Saint-Père a accepté la rénonciation au gouvernement pastoral du diocèse de Bubanza au Burundi, présenté par Mgr Jean Tanguarara. Il a nommé administrateur apostolique du même diocèse Mgr Georges Bizimana, actuel évêque de Ngozi. Le souverain pontife a également accordé son assentiment à l'élection de 2 nouveaux éparques de l'église patriarcale d'Alexandrie des Coptes en Égypte, les pères Thomas et Sam William Bolos Faragala et Ayoub Makta Oussama Shafik Aknour, élus respectivement au siège de Al-Kousia et Assiout. Mercredi, le Saint-Père avait poursuivi son cycle de catéchèse sur la passion pour l'évangélisation lors de l'audience générale place Saint-Pierre. Il était revenu en particulier sur les ailes apostoliques du croyant en s'appuyant sur la figure de Saint-Paul. En début de semaine, le pape François avait reçu lundi en audience les participants au dialogue de Minerve organisé par le dicastère pour la culture et l'éducation à qui il avait souligné la nécessité de fonder le progrès technique sur des choix éthiques et responsables. François avait également rencontré les évêques, recteurs, pères spirituels, formateurs et séminaristes de Calabre. Il les avait appelés à un engagement commun, renouvelé, pour promouvoir l'évangélisation et la formation sacerdotale.
Christian Combé, ajoutant que le pape présidera dimanche place Saint-Pierre la messe des Rameaux et la prière de l'Angelus. L'étape continentale du processus synodal s'est officiellement achevée le 31 mars. Cette phase a relevé la joie et l'amour profond de tant de fidèles pour leur Église, le peuple de Dieu, malgré ses défauts et ses faiblesses, l'importance de l'écoute comme instrument et dynamique permanente de la vie ecclésiale. C'est ce qu'a souligné la secrétaire générale du synode. Cette phase a favorisé l'écoute et le discernement au niveau continental sur la question du processus synodal dans son ensemble, à savoir comment se réalise aujourd'hui aux différents niveaux ce marché ensemble qui permet à l'Église d'annoncer l'Évangile selon la mission qui lui a été confiée. La phase continentale du synode a notamment permis de prendre amplement conscience de l'importance de cheminer ensemble dans l'Église en tant que communion de communauté en renforçant le dialogue entre les églises particulières et l'église universelle. S'est également réjouie la secrétaire générale du synode qui n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à l'endroit des personnes qui se sont investies dans ce processus avec beaucoup de sérieux et d'enthousiasme. La première assemblée du synode sur la synodalité se tiendra au mois d'octobre prochain au Vatican. En Côte d'Ivoire, Marcel Ariston-Blé nous rencontre du pèlerinage diocésain des enfants de Grand Bassam qui a eu lieu samedi 25 mars au sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Bonnoy. Ils étaient plus de 14 000 enfants venus de toutes les paroisses du diocèse pour prendre part à cet exercice spirituel qui a eu pour thème « Moi, enfant, je m'unis à mes amis pour la mission de l'Église ». Dans son homélie, l'ordinaire du lieu, Mgr Awa les a invités à prendre pour modèle la Vierge Marie.
Assis côte à côte sous plusieurs dizaines de bâches blanches dressées dans l'enceinte du sanctuaire marial Notre-Dame de la Garde de Bonnoy, les enfants du diocèse de Grand Bassam ont répondu massivement à l'appel de leur père évêque Mgr Raymond Awa. Président cette Eucharistie, l'évêque de Grand Bassam les a invités à prendre pour modèle la bienheureuse Vierge Marie, modèle de foi, de prière et de fidélité. Mgr Raymond Awa les a aussi exhortés dans cette homélie à se laisser conduire par Dieu, surtout à imiter Jésus-Christ qui a été docile à ses parents en faisant la volonté de Dieu. L'ordinaire du lieu a également saisi l'occasion de cette messe pour féliciter les tout-petits de son diocèse qui, lors du précédent pèlerinage coïncident avec la quête impérée pour les médias catholiques, avait apporté une contribution à hauteur de 5 millions de francs CFA pour soutenir les médias catholiques de Côte d'Ivoire. Marcel Ariston-Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
L'actualité sociopolitique africaine à présent. Le président nigérien Mohamed Bazoum a nommé un nouveau chef d'état-major des armées de son pays confronté à la violence djihadiste dans plusieurs parties de son territoire. Le nouveau chef d'état-major est le général de division Abdou Sidikou qui remplace le général Salifou Moudi en poste depuis 2020. Des changements à la tête de l'armée burkinabé également. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, a nommé vendredi de nouveaux responsables à la tête de l'armée pour mener, selon lui, la guerre aux groupes djihadistes et reconquérir leur bastion. Selon un décret présidentiel, le capitaine Traoré a remplacé le chef d'état-major général des armées, le colonel-major David Cabré, en poste depuis février 2022 par le colonel-major Célestin Sempouré. Le capitaine Traoré a également nommé le colonel Théophile Nikiema au poste de chef d'état-major de l'armée de terre. L'opposition sénégalaise a annoncé vendredi le report de manifestations qu'elle avait prévues lundi après des tensions cette semaine dans le pays à la faveur du procès d'un de ses chefs, Ousmane Sonko. Le 31 mars est la date qui a mis fin à l'injustice. C'est ce qu'a lancé vendredi Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien, qui a tenu un grand meeting dans son fief de Yopougon, 2 ans jour pour jour, après son acquittement définitif par la justice internationale. Devant une foule incandescente de plusieurs milliers de partisans réunis pour ce qu'il appelle la fête de la Renaissance, Laurent Gbagbo est longuement revenu sur ses années de détention à la Cour pénale international de La Haye. Évoquant les événements de 2010 qui l'ont conduit à la prison, Laurent Gbagbo a appelé à chercher la vérité et à trouver les vrais coupables. Faisons place à présent au père jésuite Adrien Lintiampa qui nous introduit à la méditation avec les lectures du dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur.
chers frères et sœurs, la liturgie de ces dimanches de Rameaux est significative en ce qu'elle s'ouvre par la lecture de l'évangile de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et culmine dans l'écoute de l'évangile de la Passion. Dans une même célébration, il nous est donné de méditer deux aspects qui marquent toute la semaine sainte. Jésus qui va décidément au-devant de sa Passion, mais dont la mort est l'œuvre de la fermeture du cœur de l'homme à l'amour de Dieu. En effet, dans l'évangile lu avant la procession, Jésus accomplit un acte prophétique pour signifier qu'il accepte et choisit de vivre sa Passion pour réaliser les Écritures. Il entre à Jérusalem, monté sur le petit des ânes. Il se présente ainsi comme le Messie annoncé par le prophète Zacharie. « Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il est le roi humble et doux qui vient libérer Israël. Il est le serviteur souffrant dont parle le prophète Isaïe dans la première lecture. Le serviteur qui se laisse guider par la parole de Dieu sans se dérober un seul instant. La lecture de l'épître aux Philippiens y reviendra. Lui, le Christ qui est Dieu, s'abaisse jusqu'à accepter de mourir sur la croix dans l'obéissance totale à son Père. Sa Passion est donc un abandon total au Père pour notre salut. L'épisode de Gethsémani dans le récit de la Passion le confirmera. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu veux. » Ainsi, à ce moment décisif devant la Passion, alors que la cohorte menée par Judas est aux portes du jardin, Jésus s'abandonne totalement entre les mains du Père et s'engage à accomplir sa volonté. Au même moment, cette Passion est aussi l'œuvre et la conséquence de la fermeture du cœur de l'homme. Judas, justement, est le type même de celui qui se ferme au salut proposé par le Christ. Lui, l'un des 12, trahit le Maître pour un intérêt personnel. Mais il y a aussi Pierre, qui reniera le Maître par 3 fois, lui qui se disait prêt à offrir sa vie pour Jésus. Les autres disciples ne sont pas du reste, car chacun prendra son chemin pour sauver sa peau. Et que dire des grands prêtres et des anciens, et qui étaient supposés garder le peuple dans l'alliance scellée avec Dieu au désert, cette même alliance que Jésus vient accomplir. Ils sont enfermés dans l'image qui se sont faites du Messie, le libérateur envoyé par Dieu. Ils n'ont pas accepté la voie de la douceur et de l'humilité que Jésus leur propose pour atteindre le royaume de Dieu. De même, la foule qui criera qu'il soit crucifié, alors même qu'elle a chanté quelques jours avant, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». En célébrant le dimanche de Rameaux, l'Église nous rappelle ainsi que le Christ accepte de mourir sur la croix pour que malgré notre péché, nous ne demeurions pas captifs de la mort. Devant cette Passion, ferons-nous comme Judas, qui se ferme dans son refus de la miséricorde de Dieu et préfère se donner la mort? Ne devrons-nous pas être comme Pierre qui, malgré son reniement, laissera le Christ poser sur lui son regard miséricordieux pour une vie nouvelle qui prendra son élan à la résurrection de son Maître et Seigneur? La célébration du dimanche des Rameaux nous invite ainsi à savoir tirer profit de la Passion du Christ pour que nous retrouvions une vie nouvelle dans sa résurrection le jour de Pâques. Que cette célébration de la Passion du Christ nous fortifie et nous sanctifie pour la vie éternelle. Amen.
Notre invité du jour est une fois de plus Monseigneur Roger Umbeji, l'archevêque de Cotonou au Bénin. Après avoir évoqué dans nos précédentes éditions les raisons de la mise sur pied du programme Église verte, Monseigneur Umbeji nous parle cette fois-ci de l'enjeu de cette initiative qui est la conversion écologique de ces diocésains en vue de la sauvegarde de la maison commune. Il commence par les objectifs de ce programme.
D'abord, à court terme, il s'agira de promouvoir l'éducation à la protection de l'environnement au sein des communautés de l'archidiocèse et assurer aussi une gestion innovante des ordures et déchets au sein des communautés de l'archidiocèse de Cotonou. Et à long terme, le programme permettra d'assurer la promotion des énergies renouvelables et l'aménagement écologique des espaces, l'aménagement écologique des domaines, des structures de l'archidiocèse de Cotonou dans le cadre de la lutte justement contre les changements climatiques. Et enfin, il s'agira d'assurer le label Église verte pour l'archidiocèse de Cotonou.
Et c'est un programme sur 5 ans.
Oui, un programme sur 5 ans, voilà.
Alors, quelles sont vos cibles et partenaires par rapport à ce programme Église verte?
Bon, les cibles du programme sont essentiellement toutes les structures de l'archidiocèse avec des activités intenses dans 4 communes. La ville de Cotonou, c'est la capitale économique qui est aussi un pôle d'attraction important. Il y a la ville d'Abomey-Calavi, qui est la 2e ville plus peuplée aussi et qui abrite diverses institutions de l'archidiocèse. Ensuite, 3e commune, c'est la commune de Soava, la commune lacustre. Et enfin, il y a la commune de Ouida, comme la commune historique aussi, qui est la porte d'entrée des missionnaires, donc de l'évangile. Donc, nous avons près de 1 500 000 chrétiens catholiques et autres usagers des structures de l'archidiocèse de Cotonou qui seront directement touchés par cette action-là. Et nous pouvons noter que les 2 077 241 habitants de l'Atlantique et du littoral seront indirectement impactés aussi par le programme, avec un impact important sur toute la population béninoise et un effet d'entraînement de toutes les autres confessions religieuses. Et les partenaires clés qui seront impliqués dans cette action. Nous avons d'abord le ministère du cadre de vie et du développement durable, qui est notre partenaire principal. Il y a aussi le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, qui est aussi le chef de file des partenaires techniques et financiers dans le domaine du cadre de vie et du développement durable. Plusieurs autres partenaires qui s'annoncent.
Le coût global de ce programme est de plus d'1 milliard de francs CFA, soit plus de 2 millions d'euros. La contribution de l'archidiocèse de Cotonou est plus de 250 millions de francs CFA, environ 400 000 euros. Alors, Monseigneur, comment le diocèse de Cotonou va s'y prendre par rapport à sa contribution?
Bon, la contribution de l'archidiocèse, en essayant de montrer l'importance d'un tel programme pour notre vivre ensemble, je crois que nous pouvons tirer ça de nos fidèles qui seront sollicités, fortement sollicités, pour contribuer à cela. Et bon, les autres, surtout nos partenaires, ceux qui ont manifesté déjà un intérêt vis-à-vis de ce programme. Et puis, bon, tous les autres partenaires avec lesquels nous essaierons d'entrer en collaboration.
L'enjeu est la conversion écologique, le changement de comportement.
L'environnement, donc, comme vous le savez, si on n'y prend pas soin, il peut nous rendre malades. Et en essayant d'éduquer les gens à prendre soin de l'environnement, c'est éviter toute maladie. Et quand vous n'éduquez pas les gens dans ce sens-là, et vous n'attirez pas leur attention sur le soin qu'ils doivent apporter à leur environnement pour que cela puisse contribuer au bien-être de la société. Je crois que ce message ne passera pas tant qu'ils ne voient pas leur importance, d'où la nécessité d'éduquer et puis de sensibiliser et puis de poser aussi des actes concrets qui leur montrent que, bon, quand c'est propre, eh bien, c'est le bien de nous tous, c'est le bien de la nation, c'est le bien de notre Église. Notre grande attente, c'est effectivement avoir la conversion écologique à tous les niveaux. Il faut que nous procédions à une conversion des cœurs à l'écologie, aux soins de l'environnement.
Monseigneur Roger Mbeji, archevêque de Cotonou au Bénin, qui nous parlait à l'instant du programme Église verte en vue de la sauvegarde de notre maison commune, la Terre. Rappelons que le programme Église verte a été lancé au mois de mars 2023.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
À mes auditeurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Très bonne semaine sainte à tous et à toutes.
Pitié, pitié, ô mon Seigneur.